Chers frères et sœurs, dans le Messie Jésus ou Yeshua, je remercie le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, de nous avoir permis d'être encore là et d'être fidèles au poste. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2022. La guerre toujours bat son plein en Ukraine. Et nous sommes toujours dans la crise sanitaire, hein. Donc ça n'a pas terminé, puisque d'ici là, il y a encore beaucoup d'infections. Même si c'est pas comme avant, c'est plus virulent. Donc nous sommes encore en pleine crise pandémique. Comme d'habitude, donc nous allons examiner notre étude hebdomadaire. Et le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier livre de Samuel, le chapitre 9, du verset 1 au verset 25. Je vais intituler cette étude L'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. On peut dégager plusieurs choses, plusieurs titres de cette étude biblique, mais je voudrais mettre l'accent sur ça, sur l'Éternel comme le maître de l'histoire, comme le maître des temps et des circonstances, celui à qui rien n'échappe, celui à qui rien n'est étonnant de sa part, celui qui n'est pas surpris par le cours de l'histoire, ni par aucun événement. Il maîtrise tout. Il est le créateur, il est le maître du monde, à lui soit toute la gloire dans le nom de Yeshua. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de ceux qui reçoivent les nouvelles publications par mail, les newsletters par mail, et qui ne l'ont pas reçu depuis 2 semaines, ou bien même plus, parce que j'ai un problème sur le site. campagnepouryeshua.com, en tout cas que je n'arrive pas à résoudre, hein. Voilà, donc pour le moment, je vais peut-être contacter quelques frères qui sont calés en informatique. J'en ai déjà contacté, mais bon, le problème n'est pas résolu. Donc, pour qu'ils me donnent un coup de main, voilà, ou bien un coup de maître, plutôt. Voilà, puisque ce sont des experts, ce sont des informaticiens. Et que le Seigneur les bénisse de me les avoir mis sur la route. Et je remercie aussi également tous les frères et sœurs qui me font des retours. Je les remercie et je les bénis dans le nom de Yeshua. Pour ceux qui prendront ou bien qui entendront cette étude biblique pour la première fois, sachez que toutes les études bibliques et les écrits sont compilés sur le site campagnepouryeshua.com et qu'il y a aussi d'autres études que vous pourrez écouter en audio ou bien lire ou bien d'autres enseignements puisque je ne suis pas le seul à faire des études, à mettre des études sur le site. Donc vous trouverez aussi études sur Cantique et puis vous trouverez aussi des programmes, en tout cas, la méditation quotidienne, voilà, avec prière, si vous voulez, si vous n'êtes pas habitué à lire la Bible et à prier, voilà. Et nous avons aussi une partie de notre action qui consiste donc à envoyer des Bibles. En Afrique, voilà, ou bien à donner une Bible à tous ceux qui le demandent de par le monde entier. Voilà, donc une de nos actions est donner des Bibles, mais également à organiser des conférences. En ce qui concerne les conférences, donc nous allons essayer de recommencer, puisqu'il y a plusieurs frères et sœurs qui m'en ont parlé. Donc c'est la période Covid qui nous a arrêtés. Et puis également, peut-être que nous allons, si Dieu le permet, aussi recommencer les groupes de maison. En tout cas, un groupe de maison ou bien des groupes de maison. Voilà, donc, ce que je pourrais dire avant d'aller dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais être quand même, bref, je ne vais pas tout lire, mais je conseille vivement à tout un chacun donc de lire les chapitres, de lire les chapitres afin que l'étude ne soit pas trop longue. Donc, je vais lire dans la version hébraïque. On nous dit, il y avait alors un homme de la tribu de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel. Kish veut dire piège ou courbé, oiseleur. Abiel, Dieu est mon père, fils de Séror. Séror veut dire, comment ça, je vais voir. Séror veut dire paquet, colis, caillou. Voilà. Et fils de Bécora, Bécorat, Bécorat, ça veut dire premier-né. Fils d'Afia, qui veut dire vivifié, vivifié, voilà. Fraîcheur vivifiée. Hein, ça veut dire ça, vivifié. D'Afia, vivifié. Voilà, vivifié, fraîcheur. D'emblée, j'ai été frappé par la biographie de Kish ou bien de Shaoul plus tard, puisque Shaoul descend de tous ces illustres personnages. Et je me suis posé la question, pourquoi la Bible a pris soin de nommer tous ces hommes-là, toute l'ascendance de Shaoul? Bon, je me suis dit sûrement que ce sont des gens qui avaient marché avec Dieu, qui avaient eu un impact dans la vie de Shaoul, dans la vie de son père également, et parce que la Bible ne nomme rien sans rien. D'accord? C'est parce qu'il y a une leçon à tirer de ces hommes-là que ça a été nommé, que la Bible les a mentionnés. Sûrement que c'est des gens qui ont compté, qui ont marché avec Dieu, avec l'Éternel Dieu. Donc, qui ont compté dans la vie de Shaoul et de son père. Pourquoi on nous offre la biographie de complète de Shaoul? Le livre de Samuel, je rappelle, est un livre prophétique. C'est pas un livre d'histoire, historique. Et ce qui est arrivé ici à tous ces personnages, à Shaoul, aussi peut nous arriver. C'est une leçon pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Hein, c'est toujours comme ça. Comme dit l'Esprit Saint à travers Paul dans la Nouvelle Alliance, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et on nous apprend, après cette biographie du père de Shaoul, on nous apprend que Kish avait un fils. Il avait un fils nommé Shaoul. Demander à Dieu, ça veut dire exaucer, demander à Dieu. C'est un nom qui est proche également de Samuel. Entendu. Dieu a entendu la prière d'Anne. Dieu a exaucé la prière d'Anne. Dieu a donné un fils à Anne. De la même manière, ici aussi, Dieu a entendu les cris du peuple, a entendu la prière du peuple et a donné un roi, a exaucé la prière du peuple et a donné un roi. Je pense que c'est pour cela même que Samuel aimait beaucoup Shaoul. Avait, oui, parce qu'ils viennent de là. Ils ont presque la même histoire. Vous voyez, lui, en tant que, lui, Samuel, en tant qu'enfant, qui a été demandé, et Shaoul, en tant que roi, qui a été demandé. Et on nous dit d'emblée que Shaoul était jeune et beau. Et que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté et qui dépassait de repos tout le reste du peuple. C'est un homme donc qui est grand, qui est beau, qui a une stature imposante, qui se remarque parmi la foule, qui ne passe pas inaperçu. Un beau gosse, bien bâti, hein, bien bâti, voilà. C'est ça nous décrit Charlotte. Peut-être que c'est ça le piège et c'est ça qui va le perdre également, qui a entraîné son orgueil également, quoi, parce que peut-être c'est sa beauté qui va le perdre, c'est la gloire. Vous savez, quand les gens parviennent des fois à une position de puissance, ça le montre. Et la Bible nous dit que Dieu ne donne sa gloire à personne. Quelle que soit ta situation, si tu veux tirer gloire de quelque chose que l'Éternel t'a donné, mais tu vas te faire écraser, jeter par lui. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. C'est ce qui est arrivé à Charlie. Il était le premier roi, il était beau et fort. Hein? On nous dit même que son père aussi était un homme vaillant, un homme fort. Le mot fort en hébreu, Sha'il, veut dire aussi riche, hein? Fort. Le mot vaillant aussi en hébreu, Gibor, hein, veut dire aussi riche, puissant, hein? Bras courageux, qui a de la bravoure. Ouais, donc le père de Shaul était un homme fort, un homme respecté, un homme droit, un homme éprouvé, un homme capable, un homme qui a du talent, voyez, qui est riche, qui a de la compétence, mais également un homme courageux. C'était un homme courageux, un Gibor. C'était les mêmes termes qui ont été employés pour Gédéon, pour Jephté et pour beaucoup de juges en Israël. Donc voilà. Et Samuel était l'intermédiaire entre la période des juges qui se finissait et puis le début de la royauté. Et ce chapitre 9 va consacrer donc le début de la royauté ou bien l'intronisation ou l'onction donnée à Shaul, même si c'était dans l'indifférence du peuple, puisque l'onction a été faite en secret, loin loin de la vue du peuple, et c'est après que Samuel va présenter peuple donc va présenter Shaul donc au peuple. Voilà. Je fais la parenthèse suivante que jusqu'à aujourd'hui, en Israël, il y a des partisans de Shaul. Il y a toujours une dispute entre les partisans de Shaul et les partisans de David. Et selon l'histoire, lorsque Shaul était monté sur le trône, il était comme un enfant d'un an, c'est-à-dire innocent, quelqu'un d'intègre, de droit, hein, quelqu'un de brave, qui craignait Dieu, qui craignait l'Éternel Dieu. Voilà, et obéissait. Comme un enfant d'un an ne pouvait pas faire du mal, également Shaul, au début de son règne, était de cette innocence-là. Puisse l'Éternel nous donner la grâce de rester nous aussi intègres et innocents. Innocents dans notre marche avec lui. Donc, on nous apprend d'emblée que quelque chose s'est passé. On nous présente ça dans le verset 3. Je ne vais pas tout lire parce que sinon ça risque d'allonger l'étude biblique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai intitulé l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Vous savez, comment on dit? On nous dit dans le verset 3 que les ânesses de Kish, le père de Charles, s'étaient perdues. Avoir des ânes à cette époque est un signe, à cette époque-là, est un signe de richesse, puisque les ânes étaient les véhicules tout-terrain de l'époque, étaient les 4x4 de l'époque. On nous dit que, un fait banal, hein, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup d'ânes qui s'égaraient en ce moment-là en Israël, vous voyez. Mais c'est ça qui va amener Shaul à rencontrer Samuel. Vous voyez comment l'Éternel Dieu fait contrôle tout. L'Éternel Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui le maître de l'histoire de ce monde. C'est lui le maître de la marche de ce monde. Rien ne lui échappe. Rien ne peut lui échapper. Rien ne peut le surprendre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce que nous voyons se passer aujourd'hui, sachez que l'Éternel Dieu, notre Père, est aux commandes. Il maîtrise tout. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Regardez, un fait, des faits ordinaires. Voilà, des ânesses de Kish qui se sont égarés. Kish a demandé à son fils de prendre avec lui un serviteur et d'aller chercher les ânesses. C'est tout, hein. Vous voyez comment l'Éternel Dieu a conduit. Parce que la Bible nous dit, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu, que ce soit bien ou mal. Ou bien que ce soit bien ou mal, même si nous interprétons les choses comme mal ou bien comme bien, tout cela concourt à notre bien. Sachons-le que l'Éternel Dieu nous aime, que nous sommes entre ses mains et que personne ne peut nous enlever de ses mains et qu'il nous aime. Sachons cela. Vous savez, je pense que la plupart de nos plaintes sont sous-tendues par un manque de foi. Lorsque nous nous plaignons, ou bien quelque chose arrive, ainsi de suite. Voilà, nous nous plaignons. C'est un manque de foi. Si nous connaissons vraiment, nous avons la connaissance de l'Éternel Dieu, nous avons la connaissance du Messie, Yeshua, nous ne nous plaindrons plus jamais, 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 jamais de la vie. Nous ne crierons plus jamais contre l'Éternel Dieu, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Regarde une histoire banale. Que ce soit bien ou mal. Puisse l'Éternel Dieu nous donner cette grâce de voir sa main derrière tous les événements qui nous arrivent, que ce soit bien ou mal, que ce soit bon ou difficile. Mes frères et sœurs, regarde, Job nous dit, Job, ce qui lui est arrivé. Vous connaissez Job? Ce qui lui est arrivé, il dit, dans Job 2, le verset 10, quand sa femme lui a dit, ah, nos sœurs, bon, excusez-moi, hein, nos sœurs, bon, les sœurs, la femme est vite dans l'émotion, ouais, dans l'émotion, est vite peinée, est vite dépassée par les événements. Je ne dis pas toutes les femmes, hein, je ne fais pas une généralité, mais regardez la femme de Job, ce qu'il lui a dit. Des fois, les femmes sont de bons conseils, mais des fois, là, c'est vraiment. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu meurt. Regardez, pour faire quoi? Pourquoi? Pour s'emparer des richesses. Hein? Je ne dis pas, bon, excusez-moi. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. C'est ça. En tout cela, Job ne pécha point contre, ne pécha point par ses lèvres. Je vais lire dans une autre version. Mais elle lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bonheur et nous ne recevrons pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. D'où le fait que l'Esprit Saint nous dit à travers tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y avait un craignant Dieu qui disait, chaque fois que quelque chose lui arrivait, il disait, tout cela est pour mon bien. Puisse Dieu nous donner cette grâce de le dire aussi avec foi. Ceci aussi est pour mon bien. Même si le malheur lui arrivait, ceci aussi pour mon bien. Oui, depuis que j'ai lu ce témoignage, je pense que je l'ai lui écouté. Bon, moi aussi, ma foi a été fortifiée. Et je dis souvent ça dans mes épreuves, dans tout ce qui m'est, dans tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Donc tout ce qui m'arrive dans la vie maintenant, je le dis avec foi, cela aussi est pour mon bien. Il y a toujours un enseignement derrière. L'Éternel Dieu, il conduit toutes choses, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Comme les apôtres qui étaient en pleine tempête sur la mer de Galilée. Vous voyez? Là, ils ont eu la révélation du Messie, que le Messie a le pouvoir sur les éléments de la nature, parce que beaucoup doutaient, est-ce que c'est un Messie divin, est-ce que le Messie a le pouvoir, est-ce que c'est un Messie humain, est-ce que, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, non? C'est ça, au fait. Et cet épisode de tempête a démontré aux yeux de tout le monde que Yeshua est vraiment Dieu. Mais lui, qu'il est vraiment d'essence divine et qu'il maîtrise les éléments naturels, puisque après Paul, par le Saint-Esprit, nous révèle que, au fait, Yeshua est le Créateur, que tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Voilà. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. C'est ça qu'il nous a dit. D'accord? Voilà. Donc il est le meilleur. La Bible nous dit qu'il soutient le monde par sa parole. L'Éternel Dieu soutient le monde par sa parole. Autrement dit, pas Yeshua qui est la parole de l'Éternel Dieu. Nous voyons que à travers des situations banales, Saül a rencontré Samuel. Dieu a fait concourir toutes choses. Mes frères et sœurs, regardons tous les événements qui nous arrivent. Si nous ne sommes pas en tort, ou bien quel que soit, même si nous sommes en tort, hein, regardons cela comme une opportunité à l'Éternel Dieu de se révéler à nous, comme une opportunité pour connaître l'Éternel Dieu d'une autre façon, pour connaître l'Éternel, pour connaître Yeshua, pour expérimenter une relation avec Yeshua. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc, à travers la perte, l'égarement des ânesses, Shaul est arrivé. Dieu a amené Shaul jusqu'à Samuel. Je fais encore une parenthèse. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Ukraine, on parle de Gog et Magog. Vous savez, il y a une parole dans Ézéchiel 38 où l'Éternel dit qu'il mettra comme des morts aux narines de Gog pour l'amener. Parce que Gog ne voulait pas faire cette guerre. Hein? Sûrement que Gog ne va pas vouloir faire la guerre à Israël. Mais comme l'Éternel Dieu a prévu de juger les nations, puisque la Bible nous dit que toutes les nations vont se rassembler contre Jérusalem pour s'en emparer, ou bien pour le détruire, hein, pour détruire Jérusalem, ou bien pour éviter que le Messie ne revienne. C'est ça, en fait, ils veulent s'emparer. Toutes les nations, que ce soit les nations occidentales, que ce soit les nations de l'Est, de Gog et Magog, les nations après Gog, sera une coalition de nations. Là, il y aura deux, le roi du Sud et le roi du Nord, qui vont s'opposer. Voilà, le roi du Sud, je pense que ça doit être la coalition occidentale, et le roi du Nord, ça va être Gog, Magog et tous ces satellites. Voilà. Donc, ça va être un jugement des nations où les armées des nations de la communauté internationale, guillemets, vont s'affronter et qui vont être, toutes ces armées vont être détruites. Toutes ces armées vont être détruites. Et la Bible nous dit que on enterrera, les cadavres seront tellement nombreux sur le champ de bataille qu'on mettra 7 ans pour nettoyer tout cela. Ça va être effroyable, mes frères et sœurs. Effroyable. Ben, c'est l'Éternel Dieu qui va faire concourir plutôt les circonstances pour amener Gog, parce que l'Éternel Dieu lui a dit qu'il va l'entraîner, il va mettre des morts dans ce scénario, comme on le fait pour les chevaux. Vous voyez? Pour pouvoir les guider jusqu'à Jérusalem. Mes frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé aussi avec Shaul. Shaul Dieu a prévu de l'amener à Samuel. C'est ça. C'est ça. Toi aussi, l'Éternel Dieu a prévu de t'amener quelque part. Et le programme de l'Éternel Dieu par-dessus tout, c'est que soit après ta nouvelle naissance, que tu grandisses dans la connaissance de Yeshua et que tu sois un homme fait et que tu arrives à la statue parfaite de Christ. Je l'avais expliqué la dernière fois. Après, l'Éternel Dieu te fait passer par des situations, des circonstances et de suite pour te façonner au fait, te façonner, te faire grandir, te faire mûrir. Que tu grandisses dans la connaissance de Yeshua. Vous savez, nous avons tous besoin de ça, de connaître Yeshua. C'est à travers lui que nous pourrons connaître l'Éternel Dieu, son Père. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mes frères et sœurs, retournons à la Bible. Retournons à la base de la parole de Dieu. Lisons la Bible, méditons-la et mettons-la surtout en pratique. Mais il y a un fait que nous voyons également dans la conversation de Shaul et de son serviteur. C'est comme si Shaul n'était pas au courant qu'il y avait un homme de Dieu à Rama. C'est quand même curieux que Shaul n'était pas au courant, hein, que c'est ce serviteur qui lui a dit. Hein? Serviteur qui lui a dit. Donc le serviteur lui était au courant. Et le serviteur dit quelque chose que tout ce qu'il annonce se réalise. Donc, la Bible nous avons vu dans les chapitres précédents que Samuel ne laissait pas tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et l'Éternel aussi confirmait toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Samuel. Shmuel, on dit Shmuel. C'était un vrai prophète. C'est pas comme aujourd'hui, hein, où de soi-disant prophètes qui disent des choses qui ne se réalisent pas. Après, ils viennent accuser les autres. Ah oui, c'est parce que vous n'avez pas prié. C'est parce que vous n'avez pas fait ça. C'est parce que vous n'avez pas fait ça. Oh, mensonge. Ça, c'est la preuve que ce ne sont pas de vrais prophètes. Et aujourd'hui également dans l'Église se développe un phénomène inquiétant, c'est que les gens y vont pour faire une sorte de voyance, une sorte de voyance sur leur avenir. Il faut qu'on leur dise de des aventures, de bonnes aventures. Et la Bible nous apprend qu'autrefois les prophètes s'appelaient voyants. Et les gens disaient, pour aller consulter Dieu, allons trouver le voyant. Mais au moment où celui qui rédigeait Samuel, à ce moment-là, le terme voyant était devenu obsolète. C'était prophète, Navi, le prophète. Donc ils se sont dirigés donc vers le lieu ou la ville que leur a indiqué les jeunes filles qu'ils avaient rencontrées. Et l'Éternel Dieu a tout fait concourir jusqu'à ce qu'ils rencontrent Samuel. Ils l'ont rencontré et Samuel a reconnu Shaul parce que l'Éternel a pris le soin de l'avertir. L'Éternel ne fait rien sans avertir ses prophètes. Voyez, il ne les met pas devant le fait accompli. Il avait déjà averti Samuel. Il lui a donné les détails. Je lis le verset 15. Or, l'Éternel, un jour avant l'arrivée de Saül, s'était révélé confidentiellement à Samuel en ces termes. Demain, à pareille heure, je ferai venir à toi un homme du pays de Benjamin. Tu l'aideras comme chef de mon peuple d'Israël et il délivrera mon peuple de la puissance des Philistins. Tu vois, il y a tout un programme. Le programme de Samuel, bien la mission que l'Éternel a donné à Shaoul, c'est de délivrer le peuple de Dieu des Philistins. Et toi, quelle est ta mission? Quel est le don que tu as reçu? Quel est le ministère que tu as reçu? Car j'ai jeté un regard sur mon peuple et sa plainte est venue jusqu'à moi. Donc l'Éternel a exaucé le peuple qui criait à lui du joug pesant des Philistins. Et lorsque Samuel aperçut Saül, Dieu lui déclara. Donc l'Éternel Dieu lui a parlé le jour même encore, un jour avant, et à l'instant où Samuel a aperçu Saül. Dieu lui déclare, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Ouais, donc il y a eu aussi un débat de savoir, bon, que l'Éternel Dieu savait que Saül allait désobéir, pourquoi l'a-t-il choisi? On peut aussi retourner la question, l'Éternel Dieu savait pertinemment que l'être humain allait lui désobéir, mais pourquoi les a-t-il créés quand même? Ben oui, c'est une question à combien d'euros? Ou bien à combien de CFA? Ou bien à combien de dollars? Je sais pas. Hein? À combien de roubles? Je sais pas. Nous avons le libre arbitre. Rien n'est figé dans le membre. D'accord? Nous avons un libre arbitre. Nous pouvons choisir, comme l'Éternel Dieu l'a dit à Israël, je mets deux chemins devant toi, choisis la vie pour que tu vives. Et non la mort. Nous avons tous deux chemins devant nous, le chemin étroit et le chemin large. Mais la Bible nous dit, l'Esprit nous exhorte, Dieu nous exhorte, Yeshua nous exhorte, choisissez le chemin étroit. Et lui-même l'a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin. Il est aussi la porte des brebis, mes frères et sœurs. C'est Shaoul lui-même qui est parti, qui s'était éloigné de Dieu de par son orgueil et de par aussi sa timidité. Vous voyez, sa timidité va se manifester après. Il n'a pas su s'opposer au peuple qui réclamait des choses. Il était devenu un pantin, un jouet. Il était sous influence du peuple au lieu d'être sous influence de l'Esprit de Dieu, de l'Éternel Dieu. Vous voyez? Au point d'obéir au peuple, au point de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Cela nous arrive aussi de nous compromettre. Mais la Bible nous dit, quand tu te compromets, dégage-toi. Tu demandes pardon, tu te repentis et dégage-toi. Et c'est l'Éternel Dieu qui a choisi Shaoul pertinemment de ça, mais sûrement que voilà quoi, il se disait que Shaoul va choisir à lui obéir. Tout n'est pas fixé dans le membre. Nous avons tous deux chemins devant nous, toi aussi qui m'écoutes. D'accord? Et Samuel a tout dit à Shaoul sur les ânesses, ainsi de suite, et il a amené donc à manger et lui a servi la plus grande portion, voilà, qui est réservée, la portion réservée au roi. Néanmoins, Samuel n'a pas révélé Shaoul au peuple, d'accord? Ils sont sortis ensemble. Et Samuel a oint Shaoul comme roi. L'onction, c'est ça, le Machia. Machia veut dire celui qui est oint. Meler à Machia. Le roi oint. Le roi oint. Donc, ils se sont levés de bonne heure. Dès que parut le jour, à l'aube, se sont levés de bonne heure, ouais, pour prier, pour aller devant Dieu sûrement, et pour qu'il n'y ait pas trop de personnes qui se soient réveillées. Et ils sont allés sur une plateforme et Saoul a obéi à Samuel et il a oint. Ah oui, jusqu'au verset 26, écoutez-moi. Ah, on verra ça. On verra ça, c'est jusqu'au verset 20, 27, hein, donc on va s'arrêter là. Le reste, donc, c'est dans le chapitre 10, 10, 10, 10, 10, jusqu'au verset 20, 7. Je vais voir dans la version lue seconde, je pense que là, c'est, oui, d'accord, okay, c'est bon. L'onction se fera dans le chapitre 10. Voilà, bon, excusez-moi, j'avais lu les choses, je l'avais écouté, donc je pensais que l'onction aussi se trouvait dans le chapitre 9. Donc, à la fin de ce chapitre, donc, Samuel s'apprête à révéler à Saül la mission que l'Éternel a donnée à Samuel, c'est-à-dire d'oindre Saül comme roi dit. Israël, comme premier roi d'Israël. Donc, voilà. Donc, nous aussi, que l'Éternel nous donne cette grâce d'avoir cette vision, pas une vision étriquée des situations, voyez. Prions, crions à Dieu et non contre lui. Crions à l'Éternel Dieu et non contre lui. Yeshua nous a dit, vous avez des tribulations dans le monde, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. De la même manière, tous les événements qui se passeront et qui vont amener au retour du Messie, c'est pour notre bien. C'est douloureux, c'est difficile, c'est dur, mais Yeshua nous a avertis, nous aurons des tribulations. Il nous a même dit que sa venue sera comme l'affrontement et que les douleurs comme chez la femme, hein, voyez tout, les femmes éprouvent des douleurs, le muscle utérin se contracte pour amener l'enfant à sortir, mais souvent on ne le voit pas, mais toutes ces contractions, toutes ces douleurs ont un seul objectif, amener l'enfant à sortir, à naître. De la même manière, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe actuellement, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, amène le Messie. Même si on ne le voit pas. Jusqu'à ce que la trompette va sonner et notre rassemblement avec lui. Et après, lorsque les nations vont attaquer Jérusalem, le Messie va revenir en chair et en os. Tout œil le verra. Donc, mes frères, c'est un message d'encouragement. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez venir ces choses, levez la tête en signe de vigilance, en signe de prière, d'appel au secours vers l'Éternel Dieu, en signe également de vigilance, mais en signe également de courage, de vaillance, de force, vous voyez, vers l'Éternel Dieu. Ou bien signe aussi de foi, de confiance, puisque nous dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mis à part, que ton règne vienne, n'est-ce pas, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ça la volonté de l'Éternel Dieu. Que toutes ces choses-là arrivent. Jean nous a dit, nous recevons le bien, nous recevons aussi le mal, nous le recevons aussi le mal. Donc, quelles que soient les circonstances que tu traverses, sache que l'Éternel Dieu est à la manœuvre, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu est à la manœuvre, il conduit chaque événement. Fais-lui confiance, parle, prie encore, médite la parole, prie. Allez, médite, médite la parole également. Méditons ensemble, tout autre fait. Nous sommes tous dans le même bateau, hein, mes frères et sœurs. Personne n'y est épargné et personne ne sera épargné. Il faut que notre foi soit éprouvée. Ouais, Dieu s'attache même, l'Éternel Dieu, au détail de notre vie. La Bible, Yeshua nous a dit que même nos cheveux sont comptés. Voyez, toutes les circonstances doivent nous faire voir Yeshua derrière. Veuillez nous faire voir la main de Dieu derrière, mes frères et sœurs. Je nous encourage tous à garder la foi, à garder les yeux fixés sur Yeshua, à ne jamais renoncer et à lui faire confiance parce que toute chose concourt au bien de nous tous. Toute chose concourt que Dieu permet dans ta vie, concourt à ton bien, concourt à ton développement, concourt à ta foi, concourt à ton édification, concourt à ta révélation. N'est-ce pas? La Bible nous dit que le monde même souffre. Pourquoi? Et attend la révélation des fils de Dieu. C'est ça. Un être humain, quelque chose de nouveau, naît toujours dans la douleur. Mais à la fin, nous aurons la joie d'être avec le Seigneur Yeshua et de participer aux noces de l'agneau. Donc, redoublons d'efforts. Ne murmurons pas contre l'Éternel Dieu, mais gardons la foi, levons la tête vers lui et ne renonçons jamais. L'Éternel Dieu est au contrôle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que l'Éternel nous donne la grâce d'être de ceux-là. Amen et Amen.